Notre aide est en Dieu. C'est de lui que nous recevons la grâce, la miséricorde et la paix. De lui, Dieu notre Père et le Père de Jésus-Christ. Alors présentons-nous ensemble devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français et qui va nous guider tout au long de ce culte. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Chantons à l'Éternel un chant nouveau, car il fait des merveilles. L'Éternel révèle sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de chacun de ses enfants. Acclamons l'Éternel, terre entière. Chacun son style, sonner, chanter, jouer, que même la mer résonne et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie devant l'Éternel, notre Dieu. Alors c'est ce psaume 98 dont je viens de vous lire quelques versets que je vous propose de chanter ensemble maintenant pour nous unir dans la louange. Donc le psaume 98, les trois premières strophes de ce psaume de louange. Vous pouvez prendre place. Alors bienvenue à chacune et chacun d'entre vous qui êtes venus, donc malgré le froid, la pluie, les courses à pied qui viennent perturber peut-être vos trajets. C'est vraiment une force de se retrouver ici, voilà, pour nous ouvrir à tout ce que Dieu veut nous apporter comme richesse et comme merveille. Bienvenue en particulier à Pascal Cancel qui a choisi de demander le baptême parmi nous ce matin. Bienvenue à ceux qui vous accompagnent, même si vous êtes bien sûr d'une autre confession chrétienne, nous sommes complètement unis dans ce geste du baptême, unis devant l'émerveillement, devant la grâce de notre Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Alors c'est une grande joie de vous recevoir dans cette immense famille des chrétiens qui dépasse largement les confessions, les églises, les chapelles et même les générations. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier, le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Devant cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu dans la repentance pour lui demander son pardon et son aide. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David. Éternel, corrige-moi et reprends-moi. Oui, mes péchés me submergent et leur poids trop pesant m'écrase, c'est là le prix de ma folie. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit en moi. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance, et mes proches se tiennent à l'écart de mon mal. Et moi, comme un sourd, je n'entends rien, comme un muet, je n'ouvre plus la bouche. C'est toi que j'espère, ô Éternel, Éternel mon Dieu, toi, tu me répondras. Jésus-Christ a été envoyé pour chacune et chacun d'entre nous afin d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour de la vue. Aujourd'hui, cette parole que vous entendez est accomplie, nous dit-il. Alors qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Et que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole effectivement est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Alors vous pouvez prendre place, sauf Pascal, que j'accueille donc avec grande joie. Pascal, vous êtes un peu comme cet Éthiopien dont parle le livre des Actes des Apôtres. Comme cet homme, vous lisez la Bible, vous vous posez plein de questions, vous vous êtes donné le moyen de chercher, de creuser, de réfléchir. Vous cheminez depuis déjà quelque temps, longtemps même. Et puis maintenant, vous dites simplement, comme cet Éthiopien, « Et pourquoi ne serais-je pas baptisé ?» Eh bien franchement, bravo. Ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier, Pascal. Avant même que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous, il vous accompagnait sur le chemin de votre route. Et puis rien ne vous privera de cet amour de Dieu, de cet amour qui vous accompagne, qui vous gardera toujours, qui va vous donner jour après jour et de plus en plus à grandir et à produire des fruits pour ceux que vous avez à cœur d'aider, d'accompagner et de servir. Nous prions Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as donné à Pascal comme bon cœur, comme énergie positive, comme source de questions et de cheminement. Selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie, qu'avec le Christ, il devienne jour après jour de plus en plus vivant et source de vie pour ceux qui l'aiment. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Alors désormais, Pascal, chaque jour, ce baptême vous redira que Dieu vous aime d'un amour éternel et qu'il vous accompagne en ami sur le chemin que vous choisirez de suivre. Pascal, vous pouvez maintenant recevoir le baptême. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Pascal, Dieu vous bénit. Il vous conduira sur le chemin de la vie, dans sa paix, dans sa force et dans sa joie. Amen. Alors, en réponse à cet amour de Dieu et dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou de ne pas rentrer volontairement, personnellement, dans son alliance, aujourd'hui, Pascal, vous répondez à cet amour de Dieu par votre foi en lui et à ce Dieu qui vous dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Vous lui répondez dans votre cœur et aujourd'hui publiquement dans son Église, dont nous sommes un modeste échantillon, vous lui répondez « Tu es mon Père que j'ai dans les cieux ». Alors vous avez préparé une confession de foi personnelle que vous avez écrite et qui sera pour nous aujourd'hui notre confession de foi. Donc je vous propose de vous lever pour vous associer du cœur à ce que Pascal nous a préparé et qui sera donc notre confession de foi chrétienne.
Bonjour à toutes et à tous. Mon désir est de vivre dans la relation à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur, je crois en lui, il m'a appelé et illumine ma vie. Je crois en lui. Je pense que Dieu n'est qu'amour, et il ne tient qu'à nous de mettre en pratique dans nos vies ses commandements. La foi est une chose fragile, qu'il convient d'entretenir comme une belle plante pour qu'elle nous donne des fruits. Aujourd'hui, nous sommes ces fruits, arrivés à maturité.
Grand merci, Pascal. Et donc, nous avons le spontané qui vient ponctuer, répondre à cette confession de foi. Grand Dieu, nous te bénissons. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors vous pouvez prendre place pour entendre, voilà, quelques mots que Pascal
a accepté de dire pour nous dire un petit peu pourquoi il se trouve ici ce matin.
C'est vrai, comme l'a dit le pasteur, cela tout petit que je suis baigné dans les Écritures, puisque je suis né en Alsace et nous avions un enseignement religieux depuis l'école primaire, ponctué de dessins et d'amour en Jésus-Christ. Et il y a aussi une double raison pour laquelle je me trouve ici ce matin, voire une triple raison. C'est que mes grands-parents, ainsi que mon père étant enfant, venaient ici chanter et prier dans ce temple. Donc ils sont aujourd'hui avec moi par la pensée. Mon père n'ayant pas pu se déplacer puisqu'il est très loin à Sabre dans les Landes, mais il m'a appelé ce matin et me serre tout fort contre lui. Donc je fais partie de cet héritage et pour moi c'est vraiment une grande joie d'être ici en compagnie de deux autres personnes qui me sont chères, Bernadette et Dominique, qui m'ont accompagné lors d'un catéchuménat de l'Église catholique et que j'accueille ici dans notre Église protestante. Merci à tous.
Eh bien, Pascal, bienvenue dans cette grande famille des disciples de Jésus-Christ. Et grand bienvenue dans l'oratoire du Louvre. Alors, merci pour cette fidélité donc de génération. Merci pour la place que vous prenez ici et ce que vous nous apportez, effectivement, par votre foi, par votre bienveillance et puis par ce que vous rayonnez. Donc, merci aussi pour ce que vous apportez en particulier à vos enfants. Que Dieu vous bénisse et vous donne paix, joie et force. Nous prions Dieu. Ô notre Père, nous te remercions pour Pascal, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie, et plus grande encore, nous le savons, est la joie dans le ciel pour ce moment de foi, de confiance en toi, d'ouverture à ta parole. Alors bénis pleinement Pascal, ô Éternel, et puis nourris peut-être, en partie par son témoignage, aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à faire des pas de plus en direction de toi, à franchir des étapes grâce à toi et à être plus et mieux au service des autres. Oui, que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci, Pascal. On trouve dans l'Évangile un curieux aphorisme prononcé et même répété par Jésus. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors c'est évidemment choquant, car cette action prêtée à Dieu par Jésus va dans le sens de cette réalité qui fait souvent que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Alors c'est ainsi depuis l'origine du monde. C'était encore plus vrai du temps de Jésus qu'aujourd'hui, car des progrès ont été faits quand même dans ce domaine. Par exemple, en France, il fait mieux être pauvre aujourd'hui qu'il y a 100 ans, ou même qu'il y a 50 ans. Par exemple, je me souviens avoir été chez des paysans savoyards dans les années 60 qui vivaient encore avec leurs bêtes dans la même pièce et qui, à la cinquantaine, donc plus jeunes que je ne le suis, étaient déjà usés par la dureté de leurs conditions de vie. Il y a donc eu quelques projets par rapport à cette « les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres et c'est normal ». Mais c'est ce que nous aimerions voir, des progrès dans ce domaine. Et c'est à cela que notre foi, notre cœur, notre intelligence nous pousse à chercher ardemment. Alors comment le programme de Jésus pourrait-il être d'enrichir encore les plus riches et d'appauvrir encore les plus pauvres, de leur enlever même ce qu'ils n'ont pas, nous dit-il bizarrement. Alors cet aphorisme de Jésus est choquant, on le retrouve à pas moins de 5 exemplaires dans les évangiles, en fait dans 3 contextes différents. Alors, je vais vous en lire donc 3 exemples parmi les 5, puisqu'il y en a 2 qui reprennent la même chose dans un autre évangile. Alors le premier que je vais vous lire, c'est Matthieu 25, à partir du verset 22. Je vous lis simplement la fin de la parabole des talents. C'est une parabole où d'importantes sommes d'argent sont données à des personnes différentes, et puis elles sont amenées plus tard à raconter ce qu'elles en ont fait. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha, nous dit Jésus, et il dit « Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres ». Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître ». Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne là où tu n'as pas semé, tu récoltes là où tu n'as pas répandu. Alors j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi ». Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, ou que je récolte où je n'ai pas répandu, il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a déjà 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors ensuite, dans l'évangile de Matthieu, toujours, au chapitre 13, les versets 10 à 19, Jésus raconte à la foule la parabole du semeur, bien connue, et ce que peuvent dire devenir les grains qui sont semés dans différents terrains, plus ou moins féconds. Et Jésus termine ainsi cette parabole qu'il donne à la foule. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent rien. Et pour eux s'accomplit donc cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez effectivement et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, de peur d'entendre de leurs oreilles, de peur de comprendre de leur cœur, de peur de se convertir, de sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, dit Jésus, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le mal vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et puis il continue ensuite son explication. Enfin, je vous propose une très courte parabole que nous dit Jésus pour illustrer notre façon de mesurer, de peser, de jauger la valeur de nous-mêmes, des autres et de notre vie. C'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 24 et 25. Jésus leur dit encore « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera encore pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de commencer à méditer, laisser résonner ces textes en nous-mêmes, en chantant le psaume 91, donc toujours dans le psautier français, les trois premières strophes de ce psaume 91 qui demeure auprès du Seigneur, à l'ombre de sa grâce. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Alors fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, à cette source de vie. Permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir. Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Non seulement l'apprécier, la goûter, mais la mettre en pratique. Alors ouvre pour cela, par ton esprit, nos esprits, nos cœurs, notre vie tout entière, à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors comment est-ce que le programme de Jésus pourrait-il être d'enrichir les plus riches et de rendre encore plus pauvre celui qui n'a rien ? Mais bien entendu, ça ne peut pas être le sens de cette phrase dite et répétée par Jésus. Nous savons bien que ces paroles ne peuvent pas être prises bêtement au pied de la lettre. Car par ailleurs, toutes les paroles et tous les actes de Jésus vont bien sûr dans le sens de soulager les plus pauvres, d'aider les malades, les affligés, les désespérés, bien sûr. Mais cela fait partie de son style et de sa pédagogie de nous choquer volontairement par des paroles surprenantes. Et avec ces paroles difficiles, Jésus cherche à nous faire découvrir que nous avons des oreilles faites pour entendre par nous-mêmes, des yeux pour voir, une cervelle pour réfléchir, pour nous poser des questions. D'ailleurs, nous le voyons bien, cette parole choquante de Jésus intervient toujours dans le contexte d'une parabole, c'est-à-dire dans un contexte où Jésus tente d'aider ses interlocuteurs en les mettant face aux limites, finalement, de leur propre logique. Alors quand nous sommes choqués par une de ces paroles provocantes, j'ai l'impression que Jésus rigole et nous répond « il y en a au moins un qui suit ». Et donc ça nous encourage, je crois, effectivement, à nous poser des questions, à lui poser des questions dans la réflexion et dans la prière. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de la part de Jésus de dire des choses comme ça ? Je ne pense pas, car cette parole de Jésus n'a effectivement aucun sens au premier degré, donc il n'y a pas de risque qu'on y voit un encouragement à exploiter encore plus les plus pauvres. Effectivement, elle contredirait alors ainsi la vie de Jésus, mais aussi d'autres paroles de l'Évangile. Par exemple, ce magnifique cri de Marie qui chante la louange à Dieu en disant « Dieu a rassasié de bien les affamés et a renvoyé les riches à vide ». Et donc cette seconde affirmation, cette affirmation de Marie dans le Magnificat, elle semble moins injuste que celle qui nous préoccupe aujourd'hui, celle de Jésus dans ses paraboles, mais cette parole de Marie n'en demeure pas moins choquante également, car au sens littéral, elle rendrait impossible la vie sur terre. Car alors le semeur n'aurait plus de charrue pour labourer, il n'aurait plus de semences à jeter dans son champ, il n'aurait plus de faucilles, puisqu'il ne posséderait plus rien pour moissonner son champ. Le meunier n'aurait plus de meule, le boulanger n'aurait plus de four, et puis personne n'aurait plus d'argent pour acheter le pain qui n'existerait plus. Donc manifestement, Jésus a de qui tenir, puisque sa maman nous offre également ici des paroles pour que nous nous posions des questions sur l'action de Dieu, ce que peut attendre de comme bénédiction dans notre vie. Alors cette parole, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et on ôtera aux pauvres même ce qu'il n'a pas. Elle est donc choquante, mais elle doit bien avoir quand même un sens, parce que Jésus a une cervelle, et lui, il s'en sert, il a des yeux et des oreilles, et il s'en sert pour voir la misère des pauvres afin de la soulager, et pour voir aussi la pauvreté des riches afin de les soulager également. Alors toute la question est de réfléchir de quelle richesse Jésus parle ici. De quelle richesse sommes-nous riches en réalité, et de quelle richesse fait de nous un pauvre homme, en réalité aussi. Cette question s'adresse avant tout au lecteur, individuellement, pour qu'il se la pose personnellement dans la réflexion, dans la lucidité et dans la prière. Et comme Jésus ne nous fait jamais la morale, en fait, il nous appartient d'éviter de le faire aussi, mais d'entrer tranquillement en nous-mêmes et de se poser la question avec lucidité et intelligence : de quoi suis-je riche en réalité ? Et cette richesse est-elle pour moi une bénédiction et fait de moi une bénédiction pour ce monde qui m'entoure ? Ou au contraire, cette richesse et ce rapport que j'entretiens avec cette richesse qui est la mienne, est-elle source de mort pour moi ? Par exemple, par la peur de la perdre, ou parce que cette richesse trouble ma vision de la vie, de moi-même et des autres, m'empêche d'entendre quelque chose et de comprendre le vrai sens. L'aide de Dieu est déterminante pour faire face à cette question. Alors par son éclairage, par ce qu'il peut nous faire découvrir, bien sûr, mais aussi par cette dignité radicale qu'il nous donne, qui fait que nous pouvons avoir moins peur de voir clair, et nous pouvons donc tendre la main pour saisir l'aide qu'il nous apporte, qu'il peut nous apporter pour nous faire grandir, évoluer. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce curieux aphorisme de Jésus se trouve donc dans la conclusion de trois paraboles. Alors nous pouvons regarder dans chacune de ces paraboles quelle sorte de richesse est en question pour qu'elle soit multipliée par Dieu, et de quelle pauvreté il est également question pour que Dieu puisse l'augmenter encore, cette pauvreté, et que nous y gagnions, de voir se multiplier notre richesse et de se voir accroître cette pauvreté. Car si Dieu a ce projet, c'est nécessairement que ce sera bon pour nous, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement, puisque Dieu n'est que bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous, toujours et en toute occasion. Alors la première occurrence de cet aphorisme étrange est dans le contexte de la parabole des talents. Un talent, c'était une somme formidable, quelque chose comme 20 ans de salaire d'un ouvrier. Et donc celui à qui l'on offre ne serait-ce qu'un talent, comme au début de cette histoire, il a vraiment bénéficié d'un cadeau, d'une fortune en fait. Cette parabole parle donc bien d'une richesse incroyable que Dieu nous donne, car bien sûr, ce maître de cette parabole est une figure de Dieu. Mais quelle est cette richesse en fait ? C'est en partie une question qui nous est posée pour que nous donnions notre propre réponse sur la richesse que Dieu nous a donnée dans notre existence. Mais néanmoins, il existe une indication au début de cette histoire qui oriente vers une certaine richesse, qui donne en tout cas un sens possible à cette parabole des talents pour nous. Jésus parle de Dieu comme d'un homme qui appela ses serviteurs et leur remet ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, nous dit Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'un juste et bon maître donne à chacun selon sa capacité ? Eh bien, c'est une responsabilité, c'est un boulot à faire, une tâche, une mission, quelque chose à faire pour améliorer le monde, peut-être une personne qui nous est confiée en particulier. Cette richesse dont parle Jésus dans cette parabole, c'est donc au sens premier la richesse de la vocation personnelle que chacun reçoit de Dieu pour l'exercer ou non, en fait, et de l'exercer librement. Et donc pourquoi Dieu donnerait-il aux riches de sorte qu'ils soient dans l'abondance? Et comment retirerait-il aux pauvres pour le donner encore aux riches? Eh bien, comment pourrait-il faire autrement? Car c'est comme ça dans la famille, c'est comme ça dans l'Église. Quand une personne ne prend pas sa part du travail qu'il y a à faire, du travail commun, quand il ne prend pas sa part, quand il ne répond pas à sa vocation personnelle, eh bien, comment on peut faire? Comme il faut bien que le travail soit fait, qui va s'en charger? Ben, ce sera bien sûr celui ou celle qui a déjà fait plein de choses, parce que lui, il est conscient qu'il y a des choses à faire. Et puis comme Dieu, il ne pourra supporter, par exemple, qu'une seule personne ayant besoin d'aide soit abandonnée, donc il va encore faire encore plus. Et c'est ainsi que celui qui n'avait rien se voit retirer le boulot qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Il était pourtant riche de cette potentialité, de cet appel, de cette liberté, de cette beauté qu'aurait pu être la chose faite et bien faite pour embellir le monde. Et quand Dieu veut rendre ce pauvre plus pauvre encore, ce n'est pas une punition, mais c'est afin que, en chacun de nous, ce qui reste craintif, ce qui reste dans une mauvaise théologie qui assèche sa propre vocation, que ce pauvre-là, eh bien, puisse s'étioler finalement, puisse disparaître dans notre être pour laisser toute la place à l'enfant de Dieu qui espère faire quelque chose de bien. Et puis, qu'ainsi le boulot soit fait le mieux possible, finalement, et que ça passe à travers nous. Cette parabole de Jésus nous montre que cette richesse qu'est notre vocation est assortie d'une grande liberté, en fait. Parce que, qu'on le voit dans ce texte, cette vocation, elle n'est pas comme une mission toute tracée, elle est plus large. Elle est comme le fait de se sentir concerné, celle de recevoir le reste de notre vie comme un livre aux pages blanches sur lequel nous pouvons écrire ce qui va nous inspirer. Donc à nous de regarder, à nous d'entendre, à nous de trouver ce que nous pourrons inscrire sur ce livre. Il n'y a pas un unique sens dans notre vie qui nous serait donné par une vocation, mais il y a plein de belles choses à faire, à inventer, plein de combats à mener qui tous mériteraient d'entrer dans le récit de notre vie future, à nous d'en composer le sens finalement. Cette vocation, c'est comme une potentialité offerte. Et cette parabole nous invite aussi à nous montrer raisonnables finalement dans notre envie de bien faire. À chacun selon sa capacité, nous dit Jésus. Nous avons un talent, c'est déjà immense. Peut-être que nous en aurons deux demain, mais pour aujourd'hui, c'est d'un talent dont nous sommes capables. Telle autre personne a une capacité de 2 volumes de travail, une autre de 5 volumes, peut-être de 10. Ben, tant mieux, il n'y a pas à être jaloux ni à en être fier. Chacun, comme il le peut aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine, nous dit Jésus. Alors oui, quelle richesse que cette vocation et cette liberté. Quelle richesse sont ces occasions que nous avons d'embellir la vie et que ça passe à travers nous. Alors comment faire? Pour nous y aider, Dieu nous offre une autre richesse dont il parle dans une autre parabole, la parabole du semeur, la richesse de la parole créatrice de Dieu. Dans la seconde occurrence de ce curieux aphorisme de Jésus, la richesse semée par le semeur, c'est la parole, explique-t-il. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus prononce cet aphorisme plusieurs fois après qu'il ait dit « Prenez garde à ce que vous écoutez » ou « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Car s'il est possible de faire la sourde oreille à cette parole qui vient de Dieu, il est également possible de l'entendre sans rien changer à notre existence. La parole de Dieu peut ainsi connaître des échecs, nous dit Jésus dans cette parabole du semeur. Oui, encore une fois, Dieu n'est pas tout-puissant, et sa parole non plus. Elle fait ce qu'elle peut. Et là encore, Jésus ponctue cette parabole par son refrain « On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Mais qu'est-ce que c'est que cette parole de Dieu, finalement, qui est semée par le semeur ? Cette parole de Dieu, ce ne sont pas les mots de la Bible. Même l'extraordinaire richesse des évangiles n'est qu'une porte d'entrée possible vers la parole de Dieu. Parole qui, selon Jésus, se voit autant qu'elle s'entend. Et doit ensuite être comprise, être assimilée, comme le grain tombé en terre est déconstruit pour donner quelque chose de vivant, assimilé à ce que nous sommes aujourd'hui pour nous donner la vie. Jésus fait alors une différence entre la foule qui écoute et ses disciples. Pourtant tous écoutent les paroles que Jésus prononce, mais seuls les disciples voient ce qu'il y a à voir, entendent ce qu'il y a à entendre et assimilent ce qui leur est adressé. Et donc les expressions de parole de Dieu ou de mystère du royaume ou encore d'évangile, ces expressions recouvrent une notion bien connue en fait dans la Bible hébraïque. C'est tout ce que Dieu nous propose pour nous aider. Par exemple, dans l'histoire d'Agar et de son fils Ismaël, chassé cruellement par Abraham et qui se retrouve dans le désert, assis là, quasiment mort de soif. La parole de Dieu, c'est ce qui le fait voir la source qui est à côté d'eux. La parole de Dieu, c'est encore cette source qui est dans le désert pour les faire vivre. La parole de Dieu, c'est ainsi ce qui nous ouvre les yeux et ce qui va irriguer notre être en profondeur, pour nous permettre d'ouvrir les yeux, nous permettre de nous mettre debout sur nos pieds, qui nous permettent d'avoir la force d'entrer dans un cheminement, malgré toutes les sécheresses, malgré les trahisons et les méchancetés, comme celles d'Abraham et de Sarah, malgré ce qui nous aveugle. La parole de Dieu, elle emprunte donc 1000 canaux pour venir à nous, et les mots de la Bible eh bien, nous aide à repérer ces canaux, ces sources, ces fontaines. Quelle richesse que cette parole, et c'est même plus qu'une richesse, quelle source de richesse pour aujourd'hui et pour demain, pour toujours. Mais c'est vrai que là aussi, la richesse va aux riches. Plus notre foi est grande, plus nous saurons capter cette source, entendre le murmure de la parole, la voir, l'assimiler dans notre croissance et de notre capacité à porter toujours plus de fruits, des fruits de bénédiction, des fruits de vie. Et au contraire, quand notre foi est rabougrie, quand nous n'avons plus la foi finalement, eh bien elle a plus de mal à saisir ce qui lui permettrait de ressusciter. Et comment faire alors ? Là encore, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre devient de plus en plus pauvre et donc il y a un risque de tomber dans une spirale. Comment faire alors ? Bien, c'est que personne jamais n'est totalement dénué de foi en réalité. Ne serait-ce que par un bout de tripe quelque part qui se laisse toucher par Dieu pour aimer un peu. Ou bien l'espérance d'avoir la foi. Ou bien la nostalgie d'un instant de foi passé. Eh bien, nous pouvons donc partir de cela, de ce minuscule début de richesse qui nous habite quand même. Minuscule, mais réelle capacité de voir, d'entendre, d'assimiler la parole de vie. En boire ne serait-ce qu'une goutte. En assimiler ne serait-ce qu'une graine minuscule, plus petite que toutes les autres graines. Mais elle deviendra vite 30, 50 ou 100. Et laisser ce qui est pauvre en nous, laisser ce qui est triste et désespéré s'effacer, se dissoudre devant cette vie vivante, croissante, ressuscitée et ressuscitante. Et c'est là finalement que la troisième parabole fondamentale mise en valeur par Jésus, selon les divers évangiles, est elle aussi d'une richesse exceptionnelle, d'une valeur exceptionnelle. C'est la richesse de la bienveillance qui nous permet de dénicher la moindre petite valeur réelle qui existe en nous, dans les autres et dans le monde, dans notre vie. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera encore pour vous en plus. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, nous dit Jésus. Et donc au départ, il y a la parole de Dieu, autrement dit, quelque chose qui s'adresse à nous, qui s'intéresse à nous, qui nous a mesurés, comme dit Jésus, et qui nous a trouvés pas si nuls que ça, en réalité. Bref, quelque chose ou quelqu'un qui nous aime. Prenez garde à ce que vous entendez, nous dit Jésus, en introduction de cette minuscule parabole de la mesure. Au départ, nous est donnée cette richesse, source de toutes les richesses qui est celle de la grâce, de quelque chose, de quelqu'un qui s'intéresse à nous. Cette grâce de pouvoir s'aimer enfin un peu soi-même, celle de voir la valeur de ce qui nous entoure, de voir, de mesurer et de retenir ce qui est bon, celle de voir ce qui ne vaut rien dans nos illusions peut-être aussi, celle d'assimiler tous les talents que nous avons reçus, la liberté que Dieu nous donne, celle de connaître nos limites aussi et de les accepter, puis de les transcender dans le service qui va multiplier encore nos talents. Pour cela, il suffit de laisser Dieu nous donner la richesse d'un peu de bienveillance. C'est une richesse qui pousse, qui bourgeonne et qui explose de vie. Amen. Alors je vous propose maintenant de chanter dans le petit recueil « Louanges et prières » le cantique numéro 240, les trois premières strophes donc de ce cantique 240, « Vers toi s'élève mon âme, éternel, mon Dieu, mon roi ». Alors vous pouvez prendre place pour quelques annonces. D'abord un grand merci à Guillaume Brussel qui est à l'orgue aujourd'hui pour nous accompagner. Donc bienvenue à vous puisque c'est la première fois donc, que vous nous accompagnez pour ce culte ici même à l'oratoire. Donc grand merci. Enfin, je vous avais déjà entendu en fait pour une performance intéressante ici même à ces grandes orgues. C'était formidable dans un autre contexte. Alors, vous trouverez à la sortie, comme souvent, le texte de la prédication que je vous ai proposé pour réfléchir, en prendre et en laisser, pour le partager peut-être avec d'autres. À la sortie aussi, il y a un temps d'accueil qui est caché derrière la grande porte, donc dans la sacristie de l'oratoire, avec aussi là une grande reconnaissance pour ceux qui donc régulièrement préparent ces temps d'accueil si sympathiques et si importants. Eh bien, pour donner de la chair, finalement, à ce temps de culte, à travers un petit peu une parole entre nous, si vous avez encore quelques minutes, bien entendu. Samedi prochain, il y a un concert spirituel, ici même, à 18h, autour de cantates de Bach, donc c'est en entrée libre, et puis au milieu, eh bien, il y a toujours une petite prédication, on ne se refait pas. Dimanche prochain, c'est un culte avec notre cher pasteur Florence Taubman, qui a été pasteur ici pendant 7 ans, qui est importante pour nous tous, et donc ça sera une joie de l'accueillir pour ce culte, et puis avec reconnaissance aussi, car c'est la deuxième fois cette année qu'effectivement elle me permet de prendre des congés. Donc merci à elle. Mardi 21 au soir, donc dans la maison presbytérale en face, il y a une réunion particulière. C'est qu'effectivement, vous savez que depuis des années, nous réfléchissons à ce que nous pourrions faire pour rendre notre sacristie donc un peu plus agréable. Effectivement, elle est sale, elle est sombre. Et donc, il y a eu des discussions, des projets divers se sont présentés comme envisageables. Il y a eu des études, des sondages, des réflexions, des expertises. Notre conseil presbytéral a planché dessus. Et vous proposerez plutôt de garder le plancher de la sacristie, puisqu'on avait un moment envisagé de l'enlever. Enfin bon, on voudrait discuter de tout ça avec vous tous, préparer l'Assemblée générale, où l'Assemblée générale se décidera s'il est d'accord ou non avec ce que propose votre conseil presbytéral. Donc c'est le mardi 21 au soir que tous ceux qui se sentent concernés donc par ces travaux d'embellissement se donnent rendez-vous. Alors maintenant, puisqu'on parle de travaux, de perspectives de l'Église, eh bien les diacres de notre Église vont recevoir votre offrande. Alors le deuxième dimanche du mois, cette offrande, elle est intégralement reversée au diaconat, à l'association d'entraide, qui a à cœur d'aider les plus pauvres, car pour nous, eh bien, c'est indissociable donc du service de l'Église, de l'annonce de la parole. Nous nous unissons dans la prière. Ô Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour la communion des frères et des sœurs en Christ, pour ta parole vivante en nous, lumière, nourriture et vie, que ton amour nous a donnée, nous te bénissons. Pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour, nous te bénissons. Et maintenant, nous voulons penser devant toi et grâce à toi, tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour, à notre bienveillance et à nos actions. Pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, nous te prions. Oui, Seigneur, sois avec eux comme nous voulons être aussi avec eux par une parole, un sourire, un geste, une attention. Aide-nous à ne pas oublier aucune personne, les solitaires, ceux qui ont le cœur lourd, ceux qui cherchent à régler leur situation problématique. Nous te prions, Seigneur, donne-nous un cœur de chair et des mains qui se tendent vers eux. Et dans la communion de l'Église universelle, au-delà de toutes les institutions humaines, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'accompagne, te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun d'entre nous, ô Dieu Sauveur.